Dis papa, c'est quoi le métal?
Métal la la, métal la 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 la, métal la 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 la, la 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 la, métal la 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 la, métal la 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 la, métal la 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 la.
L'histoire du métal sur TZ Fiche Radio.
Coucou les amis, bienvenue dans cette troisième émission déjà de l'histoire du métal, toujours toftaki.wordpress.com pour pomper les informations qui nous sont utiles à notre connaissance, pour j'espère étoffer votre culture générale sur la diversité musicale et notamment notre ami le métal. Ah, je vous avais promis la dernière fois de vous parler de Motorhead. Parce qu'il faut savoir qu'il faut attendre quand même la fin des années 70 pour que Motorhead vienne enrichir la scène métal. Il mélange le punk, le hard rock et des rythmiques un peu à la Black Sabbath. Mais Motorhead accélère le tempo et ajoute quelque chose de nouveau. Un chant hurlé, rauque et puissant. D'ailleurs, son chanteur Lemmy Kilmister brise une tradition de chanteur lyrique à la voix haute et claire. Mais de cette façon, il va permettre une évolution importante. De multiples directions vont pouvoir être prises dans le métal. Nos amis vont pouvoir oser des choses. Les influences de Black Sabbath et de Motorhead vont être recyclées et utilisées pendant les 25 années suivantes comme base de toute la musique métal. Et ce, chers amis, jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que Motorhead est parfait pour servir de charnière entre les 70s et les 80s. D'ailleurs, les 80s vont voir la radicalisation du mouvement métal. On va s'écouter un premier titre, tiré de Ace of Spades, chers amis. On va s'écouter Tales of Glory. Et ensuite, on va passer sur un autre groupe que j'adore, j'en frissonne déjà.
Yeah.
Alors, nos amis de Motorhead. Petite anecdote sympathique, hein, parce qu'au niveau des influences hein, qu'a comment dire, généré Motorhead, hein, on retrouve bien sûr Metallica, avec le tout petit Lars Ulrich qui, quand il était tout jeune et tout mignon, et qu'il avait encore des cheveux, était président du fan club de Motorhead. D'ailleurs, le groupe lui rendra différents hommages, notamment avec l'album The Lemmy's Hey Kay Metallica, qui était enregistré pour l'anniversaire de Lemmy. A savoir aussi que vous avez un titre qui passe dans le reportage magnifique sur Lemmy, qui s'appelle Lemmy, je crois, qui est passé sur chaîne hertzienne TNT et câble Arte il n'y a pas si longtemps que ça. On voit Metallica sur scène avec Lemmy en train de faire du bruit, et c'était exceptionnel. Donc du coup, le groupe Rancid aussi, hein, ne cacha pas son amour pour Lemmy. Ainsi, on peut le voir adopter le même look que Lemmy dans son groupe Lars Fredriksen and the Bastard, adoptant le style de barbe, la croix de fer au cou. Dave Grohl, leader des Foo Fighters et ex-batteur de Nirvana, est aussi un grand fan de Motorhead. D'ailleurs, Probot, un de ses groupes, a été monté en fait avec lui et Lemmy. On voit d'ailleurs Grohl porter un t-shirt de Motorhead dans son clip Resolve. Et comme le chanteur non inconnu d'Axel Rose, hein, de Guns N' Roses, et de AC/DC, il paraît, hein, dans le clip Estranged. Donc tout ça fait que voilà, on a une certaine influence bien marquée de Motorhead, hein, comme on disait tout à l'heure, qui ont posé beaucoup de bases au niveau du métal international. Autre groupe qui a eu énormément d'influence sur le métal, moins marqué sur le punk, on retrouve Judas Priest, qui sera le seul groupe à faire un petit peu d'ombre à Black Sabbath dans un nouveau genre qui s'appellera plus tard le heavy metal. En effet, en 77, Sin After Sin sort et fait de Judas Priest le groupe de métal le plus puissant du moment. Mais Judas fait sensation car il s'est débarrassé de tout ce qui influence blues, rock des fondateurs, et pour jouer un métal menaçant, rapide. Et il faut reconnaître que la voix de notre ami Rob Halford est quand même surpuissante et va dans les aigus. Je vous raconte que ça. D'ailleurs, Judas Priest va adopter le look de cuir, de clous et de chaînes, adopter aussi cette musique agressive et rapide, et du coup une nouvelle vague va être créée dans les groupes de métal. Donc toi, jeune homme qui porte un perfecto avec des clous et des grosses chaînes autour du cou, et que tu te trimbales en mobilette 103 SP en faisant croire que c'est une Harley Davidson, eh ben sache que tu dois ça à Monsieur Rob Halford et à Judas Priest d'une manière générale. On s'écoute tout de suite un titre de Judas dans les premiers. Je vais vous trouver quelque chose qui va déchirez vos oreilles tellement ils montent dans les aigus. Je vous laisse découvrir et on en reparle plus tard. A tout de suite les amis. We'll be right back. Et voilà, mes amis, c'était Dissident Aggressor de Judas Priest dans le fameux Sin After Sin dont on a parlé tout de suite. Alors, le look du métal. Parce qu'en fait, le métal, ce n'est pas simplement qu'une musique qui soit plus violente ou que les autres. Le métal ne se résume pas à la musique. C'est un mouvement artistique. Il a ses codes, qu'ils soient esthétiques, vestimentaires, culturels. Les pochettes d'albums ont une influence métal. Les textes des chansons, l'attitude des gars sur scène et dans la vie de tous les jours. Il faut bien comprendre tous ces points en fait pour bien comprendre le métal. Donc du coup, on va s'attaquer au look. Ah déjà, il y avait le look des Hardos dans les 70. Au départ, il n'y a rien qui les distingue. Qui distingue un rocker d'un hard rocker. Les musiciens de Led Zepp ou de Deep Purple portent les cheveux longs, des jeans et des superbes chemises. Ou alors des simples t-shirts. Bon, ils abordent un look plutôt hippie, comme leur public d'ailleurs. Mais peu à peu, avec la nouvelle génération du hard, on voit réapparaître le blouson de cuir, symbole de la rébellion des années 50. Le fameux Perfecto. Tu vois, je reparle de toi, mon jeune ami avec les clous sur les épaules. À la fin de la décennie, le fan de hard rock est plutôt habillé d'un perf, un t-shirt, un jean et des baskets. Mais il a les cheveux longs et une attitude toujours très cool. Ça me fait assez penser cette description à notre ami Bruce Dickinson hein, d'Iron Maiden, avec les pantalons ultra slim. C'était assez sympathique. Hein. Dans les années 70, il y a aussi le look heavy metal. Voilà, il est assez sensible hein, que celui du hard rock. Mais suivant les groupes comme Black Sabbath, les gens peuvent s'habiller de couleurs plus sombres. Motorhead, groupe de bikers par excellence, apporte un côté motard. Pantalons de cuir, les blousons en jeans, les gros ceinturons. Ensuite, pour aller avec cette tenue, nous avons à adopter une certaine attitude. Les jeux de scène, comme ceux de Led Zepp, restent proches de celui des hippies, bien que les ambiances soient plus électriques. Mais ce sont des groupes comme AC/DC, Black Sabbath et Judas Priest qui commencent à intégrer de vrais décors de scène en rapport avec leur univers. Ambiance cimetière pour Sabbath, déguisement de sale gamin pour SDS et arrivée sur scène en moto pour Judas Priest. D'ailleurs, petite anecdote, encore une fois, qui remonte à l'interview que j'ai fait de Judas Priest l'année dernière, enfin que j'ai fait la conférence de presse on va dire, à savoir que les gens ont demandé mais pourquoi comme groupe anglais vous n'allez pas sur scène avec une Triumph, hein, une belle moto anglaise. Et ben en fait quand ils ont été aux États-Unis faire leur tournée, ils ont acheté une Harley à Harley Davidson pour un dollar symbolique. Donc comme dit Rob Halford, moi j'avais l'occasion d'acheter une moto pour un dollar, je m'en suis servi, hein, je l'ai acheté, je suis monté sur scène. Bon, ils ont un petit peu enlevé des artifices sur la moto pour pas passer à travers le plancher. Mais le résultat est là, ben, groupe anglais de Judas Priest roule en Harley sur la scène, c'est comme ça. Et donc du coup, on arrive un peu à peu à ce que le métal devient un genre autant visuel que musical. Et dans les influences du métal, nous avons déjà le contexte social. Et oui, parce que la deuxième moitié de la décennie, la crise économique a brisé le rêve hippie. La jeunesse se confronte à un monde plus dur que celui des Trente Glorieuses. Il est logique que ses goûts se dirigent vers une musique plus emblématique de ce monde nouveau. Ensuite, il y a la littérature médiévale, le cycle arthurien, les livres de Tolkien ont influencé Led Zepp. Black Sabbath est plus marqué sur la littérature fantastique et veut faire de la musique d'horreur. Généralement, je bafouille, hein, vous avez remarqué, mais généralement la littérature de science-fiction va servir de réservoir à des idées pour les paroles et les thématiques de nombreux groupes de métal de la décennie et des suivantes. Certains auteurs vont même jusqu'à écrire des paroles. Par exemple, Michael Moorcock pour Blue Oyster Cult et Out Queen par exemple. La littérature d'heroic fantasy, la bande dessinée, ont aussi une grande influence sur l'univers des groupes. Ils y puisent leur nom, leur thématique d'album. Et les illustrateurs de BD sont recherchés pour dessiner les pochettes de disques. On pioche également dans la littérature gothique, et d'épouvante du 19e, comme Mary Shelley, Edgar Poe, Lovecraft et même Maupassant. Du coup, on va se faire une petite pause, qu'en pensez-vous ? On va rester dans les ambiances des années 70. Je vais vous décoter une surprise et je vous donne la réponse après. A tout de suite. Cette chanson, chers amis, que vous venez d'entendre, était d'Iron Maiden, version 1978. Elle se nomme Prowler. En fait, c'est issu de l'album The Soundhouse Tapes. C'est un album qui contient en fait les premières démos du groupe, qui a été enregistré le 31 décembre 1978 à Cambridge, juste la veille de leur premier concert au Wrestling Arms. Et le chanteur, évidemment, vous l'avez peut-être pas reconnu, c'est Paul Di'Anno, hein, qui a précédé ce bon vieux Bruce. Alors, petit retour dans nos influences du métal avec l'occultisme. Alors, vous entendez certainement derrière moi ZZ Top, c'est pas très occulte, à part leur grosse guitare pleine de moumoutes blanches, ça, il faut arriver à le comprendre. Mais il faut savoir quand même que le rock a toujours eu un penchant pour l'occultisme, l'ésotérisme. Mick Jagger, fan d'Alistair Crowley, c'est un mage satanique et prônant la liberté individuelle sur la morale. Et Jim Morrison, adepte de la sorcellerie et du chamanisme indien. Bon nombre de rockers, d'écrivains, artistes aussi, se sont intéressés à un moment dans leur vie à l'occultisme. Et les matheleux vont faire de même. Dès le début du hard, Black Sabbath, désireux de choquer à peu de frais, entoure sa musique d'un halo satanique et de sorcellerie de grand bazar. La censure en résultant va les propulser en haut du classement. Puisque ça marche, beaucoup vont suivre cette façon facile de faire parler de soi, arborant une ambiguïté de façade, le public flairant avec joie la blague, bien content de faire hurler les parents et les profs. La réputation sulfureuse de ce courant musical reste encore maintenant la plupart du temps un fait dénué de tout fondement sérieux. Autre influence, le cinéma. C'est quand même difficile de savoir qui influence qui. Est-ce que le cinéma fantastique, gothique, d'horreur se développe en même temps que le métal ? Est-ce que le métal se développe en même temps que ce cinéma ? Disons qu'une sphère d'artistes influencée par la littérature de ce genre va se lancer soit dans la musique, soit dans le ciné. Et du coup, ça va s'influencer mutuellement. Ainsi, de nombreux groupes de métal apparaîtront dans les films et sur les bandes originales de ces films. Alors, on arrive au bout de ces années 70. Led Zeppelin, Black Sabbath, Motorhead ont montré différentes façons de jouer du métal. À la fin des années 70, deux scènes coexistent, le hard et le heavy. Et grosso modo, le succès va plutôt du côté des moins radicaux, c'est-à-dire les hard rockers. Le public rock de la fin des années 70 publicite les Hardos, Scorpions et Hesdes. Queen et tous ces autres groupes-là vendent des millions et des millions et des millions d'albums. Le heavy reste quant à lui une musique d'initié, de spécialiste, ou alors des motards, car faisant moins de concessions. C'est beaucoup plus radical, et ça allait bien à certaines personnes. Mais en 10 ans, le métal est devenu un genre à part entière, même s'il reste décrié, méprisé et censuré par les médias. Les années 70 ont vu la naissance du métal, les années 80 vont voir son explosion. Oui, je sais, merci public d'applaudir pour ce super effet spécial, mais on fait avec les moyens du bord et ça me fait marrer. Oh bah tiens, à propos de se marrer, parce qu'on va laisser les années 80 un petit peu de côté pour la prochaine émission, et maintenant on va se poiler la face, on va se chatouiller sous les bras, et on va parler de l'humour dans le métal. Comme moi, j'imagine que vous êtes tous de bons vivants, hein, on n'est pas là à faire la gueule toute la journée, et bien qu'on écoute de la musique, il est possible aussi de prendre du bon temps. Donc il y a des groupes qui se présentent sous diverses formes, les plus connus étant nos amis de Steel Panther, je pense. Mais on va faire honneur à la France, tout de suite, avec un premier petit titre d'un groupe de Nantais. Oui, c'est en Bretagne, Arnaud si tu m'écoutes. Et on va se faire un petit Ultra Vomit. Donc Ultra Vomit, c'est un groupe qui a maintenant du bagage derrière lui, qui en fait, à la base, c'était Andreas et Nicolas, qui faisaient plus dans la guitare sèche, Après, ils se sont mis un petit peu plus à la guitare électrique et aux grosses batteries. Donc on va s'écouter un petit Ultra Vomit en rendant une nouvelle fois hommage à Monsieur Lemmy Kilsmister. Donc on écoute Quand j'étais petit. Let's go, baby. Je n'étais pas grand. Je montrais mon poireau à tous les passants. Ma mère me disait, veux-tu le cacher? Je lui répondais, veux-tu le lécher? Quand j'étais petit, quand j'étais petit. Quand j'étais petit, quand j'étais petit, oui. Il était qu'un chiard, il faisait chier le monde avec ma guitare. Ma mère me disait d'aller à l'école. Je lui répondais, ta gueule, j'fais du rock'n'roll. Voilà, Ultra Vomit, chers amis, groupe nantais. Alors, petite précision, c'est un groupe qui s'est créé en 2000. Leur premier album, si on peut appeler ça un album, parce que c'est autoproduit, hein, donc ça fait plus office de démo, s'est écoulé à 500 exemplaires. Le deuxième, Mister Patate, est sorti en 2004, dépassant le millier d'exemplaires vendus. Attention, mes amis. Ensuite, ils sortent en 2008 Objectif Tune, de quel est extrait le morceau que je viens de vous faire écouter. Donc du coup, ils sortent pas en CD, hein, ils sortent sur les plateformes de téléchargement. Mais le succès étant là, ils signent avec un label. Et donc, ils tournent un petit court-métrage aussi, This is Ultra Vomit, qui prend la forme d'un faux reportage sur un live du groupe. Ils tournent hein, un petit peu, ils font leur petite tournée qu'ils ont, ils ont annoncé une pour l'année dernière déjà. Pas de nouvelles en 2016. Mais Ultra Vomit en fait est un groupe de greencore, hein, la touche humoristique en fait, parce que les paroles des chansons sont tirées de choses infantiles comme Booba, une souris verte, et en décalage avec en fait la violence de la musique. Et aussi des thèmes assez gore, hein, pris avec beaucoup de légèreté. Donc c'est un groupe de métal parodique, avec des reprises, telles que Pour un flirt de Michel Delpech, en version punk hardcore. La recette des sujets légers et anodins et les reprises est perfectionnée, notamment en mélange avec le son maléfique du black metal. Bah, je propose un deuxième petit extrait, qu'on s'écoute ça. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir vous mettre, chers amis, en termes de Ultra Vomit? Je regarde ma playlist en direct live et je me dis qu'on va rester dans les paroles françaises. C'est toujours sympa. Ah, il y en a une, je préfère pas la mettre parce que ça va choquer les petits enfants qui nous écoutent. Allez, je vais mettre un petit coup de punk. Darry Cole Chamber. Vous allez voir, c'est rigolo comme tout. Et on se retrouve après pour un deuxième groupe, plus du côté de l'Italie, chers amis. A tout de suite.
Yes! Allez, c'est ici que ça se passe! Putain, on peut voir du sang dans la fosse! We'll be right back.
voilà, chers amis, pour ce qui est d'Ultra Vomit. Comme je vous le disais, on va un peu plus dans le sud, en Italie, avec un groupe qui s'appelle Manowar. Alors, ceux qui connaissent Manowar, le groupe américain de Epic Metal, ben, vont se retrouver dans Manowar, qui est en fait un groupe parodique, qui reprend énormément de titres, de concepts, en fait, des chansons de Manowar, en racontant la plupart du temps strictement n'importe quoi, ce que je trouve assez rigolo. Un exemple sur une chanson que je vais vous passer après. Ils disent qu'ils chevauchent des tricycles de vrai métal en acier. Et quand les autres bandes jouent, ils mangent leur Happy Meal dans la forêt des minéraux. Nous tuons les frimeurs. Notre métal est si fort parce que notre bite est si longue. Notre dîner est si long parce que notre jambon est trop dur. Vous pensez qu'il s'agit de ma ceinture de chasteté? Mais c'est mon vrai caleçon de vrai métal. Donc voilà le genre de bêtises qu'il raconte, mais encore une fois, un petit peu à l'instar d'Ultra Vomit, je trouve que c'est quelque chose qui musicalement est abouti. Le gars fait péter de la voix. Donc j'ai envie de vous faire écouter deux choses. Hein. On va écouter d'abord Blood of the Queens. Donc la chanson de Manowar s'appelle normalement Blood of the Kings. Mais là, c'est le contraire, Blood of the Queens. On écoute ça tout de suite et on reparle un petit peu pour un second titre de Manowar que j'aime bien aussi. On écoute ça après.
Blood of the Queens.
While other bands play, we eat happy meal in the forest of minerals. The posers we kill. Our metal so strong, cause our dick is so long. Our dinner so long, cause our ham is so strong. You think it's my chastity belt, but they're my true metal underpants. Fire! Stone lots of power! Power! Study show!
I see trees green, red gloves is true. I see the blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
I see skies of blue,
clouds of white,
bright blessed eye,
dark sacred night.
And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself,
what a wonderful world.
Titre, Blood of the Queens de Nanowar. Alors, ces petits bouffons italiens ont eu la bonne idée évidemment de prendre tout l'univers de Manowar et ils se sont même attaqués à Rhapsody. Rhapsody qui s'appelle maintenant Rhapsody of Fire est en fait un petit groupe italien parce que bon, le bassiste et créateur de Manowar, Joey DeMaio, vous voyez la consonance de son nom de famille, n'est pas russe. Mais a bien des origines italiennes, et donc du coup, ce charmant monsieur produit différents groupes, dont Rhapsody, qui fonctionne aussi très bien. Bon, c'est un style encore plus épique, avec des dragons, des épées, et des clips franchement moyens, enfin bon, chacun son avis. Et donc du coup, nos amis de Nanowar, pour revenir à nos moutons irlandais, je sais pas ce qu'ils foutent là, mais... ont repris une chanson de Rhapsody. Et ce qui est étrange, c'est que la chanson s'appelle Rhapsody. Et le tour de force qu'ils ont fait, je trouve, c'est de prendre les paroles de cette chanson pour en faire un rap... comment appelle-t-on ça déjà ? Voilà que j'ai perdu le mot. Je vais essayer de trouver ça pendant la chanson et je vous le dis après. Rhapsody par Nanowar. On écoute ça tout de suite. Oh, vous entendez? Un bon vieux Deep Purple en fond. Excellent. on aura le droit à tout aujourd'hui. C'est exceptionnel. Allez, nos amis italiens, c'est à vous, Rhapsody de Nanoir.
From the ghetto in the forest, Rhapsody epic rapper. Yeah, Mr. Shep is coming back. For the king, for the land, for the mountain, for the motherfucking emerald sword. The dust of midlife to search for the third key to open the gate. Now need the altar, the secrets inside. There's a legend on my bill of soul, like the dragon's eyes.
On the way to the glory, I'll hold on my soul.
For the king, for the king. Sun. Yes, I'm that warrior that followed my way. Led by the force of cosmic soul, like a richer soul.
In a long bloody battle, that prophecy stole.
For the king, for the
light will prevail, and wisdom is gold.
For the king, for the land, for the mountain, for the green valleys where the runes fly. For the glory, the power to win the black lord. I will search for the emerald sword.
Et donc voilà, nos amis de Nanoir ont fait leur petit rap. Alors ma mémoire me fait défaut, j'ai pas retrouvé le nom que je voulais annoncer pour le style de musique. Hein. Je pense que chacun y verra sa propre interprétation. Alors par contre, événement important, allez voir le clip sur internet de Rhapsody, donc de la part de nos amis Nanoir. C'est tout simplement exceptionnel, avec peu de moyens. Le genre de bêtises qu'on peut faire. C'est très très drôle. Ben voilà, mon émission se termine. Ravi de vous avoir diverti avec l'histoire du métal. J'espère que ça a été le cas. Je vous dis à la prochaine fois pour la suite. Donc on va entamer les années 80. Avec toujours un petit bonus rigolo. Peut-être pas d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Parce qu'on était dans l'humour sûrement. Et donc, chers amis, je vous laisse en compagnie de nos amis nantais de Ultra Vomit. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut, salut, à la prochaine.
Casting, je collectionne des canards, entre parenthèses, vivants, du groupe Ultra Vomit.
Bon, on perd pas de temps, faites rentrer le premier canard, s'il vous plaît.
Bonjour, présentez-vous en deux mots.
Quack, quack.
Très bien, ben, on vous écoute, monsieur Coin. Bon, pour moi, c'est non, hein.
Non.
Bah, pour moi, ce serait oui, mais non.
Suivant, s'il vous plaît.
Non. Écoutez,
monsieur, vous êtes un poussin, monsieur.
N'importe.
Suivant.
Trop connu.
Ouais, trop connu, là. Suivant. Trop vieux. Suivant. Trop nul.
Suivant.
Bon, vous nous rappellerez quand vous serez sorti de votre œuf, hein, monsieur.
Allez, allez, on enchaîne. On n'y arrivera jamais, putain.
C'est clair, c'est la loue, c'est
la misère, là.
Mais toi, là, reste dans ton coin.
Oui.
Allez, gronde-toi.
Oui, 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 oui.
Putain. Mais c'est de la merde, hein. T'es qu'une merde.
T'es pas
un canard, t'es un connard.
Ah, mais c'est bon,
ouais. Oui, bah oui, c'est bon, mais attends.
Non, mais il s'est craqué.
Parce qu'il y en a un casting de canard, vous nous prenez pour des pigeons.
Mais non, mais c'est bon, tu es arrivé, tu l'as gueulé dessus, c'est craqué, c'est tout.
Depuis le début, c'est toujours à l'inverse.
T'es un chial, là.
Attends, bon, attendez, je vais mettre fin à ce que j'oserais appeler un conflit de canards. Voilà.
Oui, oui.
Oh, toi alors.
Bon, écoutez, monsieur, séchez donc vos larmes. Nous vous offrons une seconde chance. Allez-y. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Je sais pas ce que vous en disiez, là.
Pas mal, là.
Ouais.
C'était mieux, là.
Ouais.
C'était pas mal, là.
Ouais.
C'était mieux, là.
Ouais.
Pas mal, là.
Ouais.
C'était mieux, là.
Ouais. Ouais.
Pas mal là.
Ouais.
C'était mieux là.
Ouais.
Pas mal là.
Ouais.
C'était mieux là.
Ouais.
C'était pas mal là.
Ouais.
C'était mieux là.
Ouais.
C'était pas mal là.
Ouais.
C'était mieux là.
Ouais.
C'était pas mal là.
Ouais.
C'était mieux là.
C'était mieux là, ouais. C'était pas mal là, ouais. C'était mieux là, ouais.